En sortant de l'office de tourisme, traversez la route en direction du casino. Prenez sur votre droite, longez le Centre Dramatique National, puis contournez-le par la gauche.
La porte de l'usine, celle qui commence la journée de travail, celle qui sépare de la ville, celle qui cache la saleté, le bruit, la souffrance. Celle devant laquelle on passe tous les jours sans jamais savoir ni se demander ce qu'il y a derrière. Celle où s'écrit le nom de l'entreprise, où s'affiche la marque. Celle que domine l'horloge. Celle que double la pointeuse. Celle où se tient le gardien. Celle qui n'est surveillée que par une caméra. Celle qui n'existe même plus parce qu'on l'a maintenant dans la tête. Celle grande où entrent les camions. Celle petite que l'on franchit à pied, un à un. Celle qui s'ouvre à deux battants pour la voiture du patron. Celle dont on s'approche pas à pas d'un air détaché dans les minutes qui précèdent la sortie. Celle d'où se rue le flot à la cloche. Celle, pleine, qu'encadre de hauts murs. Celle qui n'est plus qu'une légère barre colorée au milieu des pelouses. Celle qui est descendre de son vélo, son cyclo, sa voiture au milieu d'un parking. Celle qui ne se ferme que parce que c'est la grève. Celle qui lock out, celle devant laquelle se déploient les CRS. Celle que défendent les piquets, celle où flotte la banderole. Celle qu'assaille aux forces des antigrévistes, celle qu'on repasse après les congés, celle que l'on quitte une dernière fois, licenciée ou en retraite. Celle dont on rêve au chômage, celle de 4 heures du matin, celle, peut-être, du grand soir.
Vous êtes rue de la Mouillère. Continuez sur la droite, sur 50 mètres.
Malgré les grilles et la porte, le lieu de travail n'est pas vraiment isolé. Chacun y apporte quelque chose de sa propre histoire, comme l'environnement social le qualifie, en raison de la considération qu'il a pour le travail.
Gauche, gauche, à gauche se trouve l'ancienne usine Sidor.
L'immeuble à cette forme-là, c'est pour récupérer le maximum de lumière. Donc l'inconvénient, c'est qu'il y fait chaud en été et frais en hiver. Puisqu'il y a un mètre carré de surface vitrée pour 2 mètres carrés au sol. Donc il y a des vitres. Mais il faut beaucoup de lumière pour travailler dans les montres.
Que c'était destiné aux ouvriers de l'horlogerie, c'est que c'est archi minutieux et que ça demandait concentration et lumière en fait. Donc moi je me suis complètement trouvée dans cet objectif-là aussi en fait. Moi quand je l'ai découvert, c'est parce que justement j'étais en train de visiter un appartement au dernier étage de cet immeuble-là parce que je cherchais mon atelier, quoi. Et je découvre cette espèce de vieux bâtiment des années 40 qui était manifestement hanté par des espèces d'ouvriers qui travaillaient un petit peu à tous les étages. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, on peut y faire ce qu'on veut, en fait. Parce qu'il est à remodeler, En fait, il fallait redonner une âme à cet immeuble. Je suis arrivée pile poil au bon moment en 2011, en fait. Voilà. Donc, premier étage, il y a des cabinets, puis des habitations, parce que ce sont des petits lofts. Hein. Là, ce que vous voyez au rez-de-chaussée, puis au premier étage, c'est des petits lofts, là. Et le dernier étage est encore un peu désaffecté. Enfin, le quatrième étage est un peu désaffecté. Montez au dernier étage. Vous avez le droit, il y a une sorte de plateforme en haut des escaliers. Vous pouvez faire le tour. Et là, vous avez quatre portes qui donnent sur les quatre ailes, et ce sont des lofts. Et vous verrez, il y a Monsieur Cyr. Lui, il faut absolument essayer d'avoir un rendez-vous avec lui, parce que c'est la mémoire vivante de cet immeuble, quoi. Il connaît tout, surtout, il a des photos aussi incroyables.
Ça fait rien, je vais à pied.
Tu peux monter ?
Oui, allez.
Vous cherchez... Bonjour, vous cherchez quoi ?
La lumière ?
Pour aller au premier.
C'est clair, hein.
Non, mais parce que quand on est au milieu, moi ça m'est arrivé, ça s'est éteint. Alors je regardais... Je presse avant. Mais pour aller au premier, avec un ascenseur comme ça, je monte en... Aller à pied.
Oui, dès l'instant qu'on vient dans un endroit, on aime bien savoir ce qu'il y a en dessous, puisqu'on vit toujours sur les morts, non ? Donc on s'empile les uns sur les autres. On aime bien savoir où on met les pieds. Donc si on habitait à Limoges, on s'intéresserait à la porcelaine. Si on était à Vire, ce serait l'andouille, c'est autre chose, ou la dentelle de Calais. Donc on s'est trouvé là, dans l'horlogerie, un peu dans le milieu horloger. Ce qui a fait qu'on s'est renseigné, qu'on essaye de récupérer quelques pièces sur l'histoire de l'immeuble. Voilà donc, la guerre venait de se terminer, Fred Lip sortait de la clandestinité. Et donc c'était devenu le patron par la force des choses des usines Lip qui se trouvaient rue des Chalets, pour l'essentiel à l'époque. Bon. Donc il s'est mis d'accord avec des entrepreneurs horlogers bisontins et du Vaudou pour édifier cet immeuble, pour en faire une fabrique, une manufacture où on faisait tout sur place. De l'aiguille au bracelet, au mouvement, aux spirales, etc. C'est les anciens bâtiments, ça c'était Lip. Lip est venu en 1906. Lip déjà se trouvait grande rue à Besançon. Et en 1906, ils ont dit, bon, il faut qu'on se développe, là on est coincé grande rue. Donc ils ont fait construire une première unité qui est juste derrière, là, un immeuble qui n'est pas inintéressant. Puis autour, ça s'est greffé, donc jusqu'en 1940. Et... En 1945, donc ici c'était un champ, et ils ont acheté pour mettre ce bâtiment. Et c'était aussi pour montrer un peu, comme ce bâtiment-là à l'époque, c'était fait pour valoriser, c'était plus un bâtiment de présentation qu'une usine. Donc c'était moderne à l'époque, toute l'entrée était vitrée, l'escalier était beaucoup plus grand, c'est un escalier perronnant. C'était majestueux. Et puis les piliers en béton, c'était pour impressionner la
coquille suisse aussi. Un atelier où c'est vrai, je puisse accueillir
des ouvriers.
Il y avait des non, c'était assez... le secret en 1945. Donc ici c'était un champ, et ils ont acheté pour mettre.
Ils ont fait les mouvements de montre.
C'est vrai, il y avait des gens vous parler à des gens qui ont 60.
Vous voyez, il y a des
considérations. 80 ans.
Des couvres, s'il a une montre libre. Parce que les montres, qui n'avait pas une montre libre il y a
27 ans. C'était un peu familial, mais bon, on n'était pas beaucoup, quoi. C'est pas comme maintenant, des grands groupes. Après, on était obligé de partir de là-bas à cause du bruit, à cause parce que comme il y a des bâtiments avec des retraités derrière, alors, ça faisait trop de bruit. Hein.
Continuez votre route. Dirigez-vous vers la voie de chemin de fer, tout droit. Continuez. Traversez la route. Tout droit, il y a la voie de chemin de fer. Traversez-la. Laissez le funiculaire sur votre gauche.
Il fallait trouver un lien entre le conservatoire et le frac. Une manière de relier tout cela était de faire un vide. Nous avons créé un passage qui permet à ce lien de se manifester. Il me fait penser aux torii, ces grands portiques à l'entrée des sanctuaires shintoïstes japonais. Le torii établit le lien entre la nature et le sanctuaire. Entre le monde des hommes et celui des dieux. Ce bâtiment est une forme d'expression du torii. Le tissage est quelque chose de très important pour moi. Ce bâtiment l'exprime bien. Trois éléments sont tissés ensemble. Les briques de l'entrepôt, le bois du bâtiment et la place. L'histoire elle-même est une question de tissage entre les êtres, les lieux et beaucoup d'éléments.
Tournez à droite. Continuez. À droite. Prenez la voie piétonne.
Je veux effacer l'architecture, écrit Kengo Kuma. C'est ce que j'ai toujours voulu faire et il est improbable que je change jamais d'avis. Effacer l'architecture, la rendre transparente à elle-même, empêcher tout objet d'apparaître est une problématique récurrente dans l'œuvre déjà abondante et multiple de l'architecte de Tokyo. Entre 1986 et 1991, Kuma explore, dans ses réalisations, le collage hétérogène, la superposition brutale, l'interférence stylistique. Les nouveaux outils de l'architecture que sont les technologies numériques constituent pour Kuma un nouveau champ d'exploration, de déterritorialisation et d'effacement de l'architecture. Elles dissolvent toute hiérarchie. Toute territorialité existante en un instant. La forme est coupée de sa cause, de son mode de génération originelle, et se trouve réduite à une combinatoire de données, manipulables et transformables à l'infini.
Droite, prenez le souterrain. Continuez tout droit, traversez le pont.
Ce processus de digitalisation offre de multiples opportunités à l'architecture. Tout d'abord, il peut la libérer totalement de l'emprise de l'œil. Ensuite, il l'ouvre à des logiques plus temporelles que spatiales et, Enfin, il permet de dissoudre la distinction entre bâti et non bâti, intérieur et extérieur, forme et fond. Dans la série de projets intitulée « Digital Gardening », Kouma exploite ces nouvelles conditions. Il n'intervient plus sur des objets, mais sur des paysages. L'enjeu est de retisser l'unité d'un monde en morceaux. L'architecture ne se limite plus à l'objet isolé, mais s'applique continuellement à tout l'environnement. Une ultime manière de l'effacer.
C'est intéressant parce que ça veut dire que y a, par rapport aux tenants de l'architecture très fonctionnelle, donc hein, on fait pas de. Voilà, on laisse les choses pures, voilà, purement industrielles, donc voilà, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, il a conservé ça, bah, c'était possible, donc il l'a conservé. On voit des promeneurs le long du Doubs. Donc il y a la fortification existante, hein, qui va d'un fortin à l'autre. Et tu vois les gens de Besançon qui se promènent au bord du Doubs. Et donc il a reconstitué quelque part cet élément-là. Hein, et je dirais, physiquement, il a montré que bah, cette fortification maintenant, avec notre époque, elle devait avoir une trouée quelque part. Et la trouée, bah, c'est là où on est, c'est le passage des arts. Donc à la fois il a gardé le lien tout en laissant du vide entre les deux fortins et puis cette trouée ici bah, qui montre voilà aujourd'hui on n'a plus besoin de se défendre et de s'enfermer et puis et bah, évidemment à l'intérieur voilà c'est alors ça c'est toute la partie chez Kengo Kouma de transmettre alors on va employer des grands mots de spiritualité japonaise, même si c'est des mots qui sont peut-être un peu forts, qu'il faudrait traduire autrement parce que ça reste très concret. Hein, c'est le fait, voilà, de, au niveau du regard, voilà, on ne sait plus trop, ça se reflète partout, dans l'eau, etc. Donc ça oblige à avoir un état d'âme un petit peu différent, voilà, qui nous emmène ailleurs.
Il faut savoir qu'au sein de la collection, il y a à peu près 27 œuvres qui sont directement en lien avec la question du sonore. Je ne parle pas des vidéos, etc. Donc il me semblait, comme on achète des œuvres tous les ans, mais avec des moyens modestes malgré tout, on ne pouvait pas arriver très vite à un ensemble très représentatif. Dans le cadre de cette exposition, il y a à peu près une dizaine d'œuvres du CNAP qui dialoguent directement avec une dizaine d'œuvres du FRAC. Donc vous verrez des œuvres très diversifiées en termes de médiums, à la fois des installations, des dessins, des photographies, des œuvres en volume, et évidemment toutes étant directement liées à la question du son, sous un prisme qui est celui du paysage et de la nature. Tout cela mis en perspective avec un arrière-plan philosophique qui est John Cage et Thoreau. Et on a conçu cette exposition comme une sorte de promenade, moi je dirais plus une balade, au sens musical du terme, avec une dimension sensible très, 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 très évidente, dans la mesure où tous nos sens sont sollicités, l'ouïe, la vue, le toucher, même si par certaines œuvres on les touche avec délicatesse, y compris l'odorat. Voilà, c'est une exposition qui se veut sensible et qui aborde la question du paysage d'une manière assez libre aussi, vous verrez dans les propositions plastiques. Mais ce qui est assez, c'est de voir comment un artiste peut faire une œuvre sonore et donner une pièce musicale dans une manière totalement aléatoire et indéterminée, puisque voilà, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin.
C'est un bâtiment industriel, on peut l'aborder, on fait le tour. C'est un bâtiment monde, ici à Cité des Arts. Hein. Et c'est ce qu'est aussi l'art contemporain aujourd'hui. Hein, il est contemporain, mais en même temps, il est imprégné d'histoire. Il est de tous les lieux, voilà. Ce qui n'empêche pas d'apprécier après le regard des collines autour, très franc-comtoises. Voilà, c'est tout ce mélange-là qui a de l'intérêt. Quoi.
Continuer sur les quais, tout droit. Puis emprunter, à gauche, le pont aux Arches.
Au début était l'artisanat. Puis vint l'âge de la manufacture, étape de concentration des travailleurs. Lieu de l'industrie naissante, elle n'en était pas la seule représentante. La fabrique, elle aussi, apparaissait, se développait et se multipliait avec l'essor du machinisme. Enfin, sur ses traces, naissait l'usine qui, pour ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui, a subi de multiples et importantes transformations. Voilà, en quelques phrases, retracer la route traditionnelle empruntée pour l'étude de 3 siècles de bâtiments industriels.
À la sortie du pont, prenez à droite. Continuez sur les quais. Vous allez passer près de la salle de musique actuelle, la Rodia. Puis vous trouverez plus loin l'ancienne usine Rodia Seta.
Rez-de-chaussée.
D'abord, il y a une résonance de sites, donc purement géographique. On est sur les anciens sites de la Rodia, et là où on est aujourd'hui, il y avait à l'époque des entrepôts de matériel combustible, je crois. Donc, l'idée, c'était de reconquérir un site qui est celui des Prédevaux, qui a une histoire prégnante et encore très vive dans la mémoire byzantine. les retraités, les gens de la Rodia sont des gens en retraite, donc c'est des gens qui sont là. Et l'histoire, elle est très forte, même pas dans l'inconscient byzantin, encore dans le conscient, dans la conscience. Donc on rappelle forcément cette histoire puisqu'on vient sur le site. On n'a pas pris l'architecture industrielle parce qu'on l'avait envisagé, mais ça avait l'air tellement compliqué de poser dans les ruines de la Rodia un équipement idoine avec ce qu'on veut faire, c'est-à-dire des musiques actuelles, avec toutes les contraintes que ça pose au niveau acoustique et au niveau de l'accueil du public, qu'il était préférable pour des raisons financières de créer du neuf. On a vu des friches réhabilitées, mais en salle de concert, ça ne marche pas en fait. Parce que voilà, aujourd'hui, il faut du confort. Dans l'histoire de la Rodia et plus largement l'histoire ouvrière des années 60-70, on a bien vu ce mouvement d'appropriation par les salariés de la vie culturelle et artistique. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, partant du constat que le théâtre, c'est pas que pour les bourgeois, hein, c'était ça, hein, on va nous aussi créer nos propres outils, nos propres objets artistiques, de façon à ce qu'on ait accès à ces pratiques-là. Donc ça, c'est une grosse remise en cause, parce que ça devient une pratique collective, et non plus, je dirais, basiquement consumériste.
On est en résidence ici, on travaille sur un projet à 4 qui s'appelle Cotton Claw, qui est un groupe sur pad. Tout. Donc on est encore toute cette année en collaboration étroite avec la Rodia pour l'utilisation des studios, pour créer et puis peut-être éventuellement faire un peu de résidence et de plateau.
C'est une usine qui fabriquait pour produire beaucoup, sans beaucoup de place et difficilement aménageable pour faire des progrès dans la production, parce qu'il fallait produire, ça tout se vendait, donc on montait les bâtiments à toute vitesse, on faisait tourner, on en montait un autre jusqu'à là.
Un de leurs derniers, c'est l'automation. Nous, on appelle ça accélération des cadences. Il y a 2 ans, je me rappelle, les tirages faisaient 188 copies. Aujourd'hui, j'en ai fait 247. Ils font des appels à la collaboration. Ils disent, mais avec vos collectivités, entendez-vous avec nous? Et puis, on va arranger le travail. On va vous donner, par exemple, 0,02 seconde pour faire un travail. 0,07 seconde en plus, sans temps. En plus des 2 qu'on avait déjà, ça va doubler le temps, mais comme de toute façon il en faudrait 6, on en perdra encore 2.
Le bail, c'est fini, maintenant, nos ouvriers ont du temps.
Bon, après, fin, c'est que le cerveau électronique a pensé qu'il fallait aller manger à ce moment-là parce qu'il y avait un trou dans la production. On va manger quand le cerveau électronique a décidé.
Même machine, c'est toujours le même travail. C'est... Il me semble voir toujours le même film, entendre toujours le même disque.
Il faudrait quand même connaître quelqu'un pour pouvoir en discuter qui trouve un intérêt quelconque à faire ce geste-là 244 fois dans la journée.